C'était Joseph et son papa de 30 mots. Bisous à tous.
Oui, alors moi je me disais simplement, cette pauvre Madame Dumont, maintenant qu'elle a fait cette erreur énorme de recevoir Guy Vanctil et de se confier comme ça à lui de façon très naturelle, je me posais la question de la suite pour elle, parce que qu'est-ce qui va arriver, forcément ce bruit de reportage va faire le tour de Neuilly. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de Neuillens qui, pour la première fois de leur vie, vont aller sur le site de Là-bas si j'y suis pour écouter des émissions. D'ailleurs, à ce titre, il faudrait leur dire que sur Internet, on peut trouver les archives et donc avoir accès aux émissions de vendredi et de lundi soir. Et ainsi, je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de Neuillens qui vont, pour la première fois de leur vie, écouter Là-bas si j'y suis. Et qui sait, en étant optimiste, ils vont peut-être découvrir une autre réalité française. Et pourquoi pas, si on a le droit de rêver un peu, ils vont peut-être un petit peu mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Voilà, je mettais simplement ça en parallèle avec les messages nombreux qui parlaient des expulsions d'étrangers et des problèmes de logement.
Oui, bonjour Daniel. Bah, écoute, j'écoute ton émission depuis vendredi sur cette jolie dame de Neuilly, n'est-ce pas, qui parlait des chauffeurs, livreurs, que c'était une honte, qui bouchait les rues et qu'il fallait vraiment qu'elle appelait la police pour les faire dégager, quoi. Mais cette dame, elle est bien contente de trouver ses petites gambas aux trois champignons pour que ces livreurs viennent livrer. Et bien moi, j'aimerais que tous les livreurs et tous les chauffeurs, livreurs ou autres, arrêtent d'aller à Neuilly. Il n'y aura plus rien à Neuilly, ils n'auront plus rien à bouffer. Ils s'apercevront peut-être que le peuple en bas, il existe aussi, et elle en a besoin. Et à part ça, à part élever ses enfants et avoir le cul dans un canapé en cuir, qu'a-t-elle fait de sa vie? Rien. Enfin voilà quoi. Bah écoute Daniel, continue, ça permet de voir un peu ce monde qui parle de ghetto, mais qui eux s'enferment dans un ghetto de bourgeois, et que il faudra peut-être les enfermer, ils finiront par s'asphyxier tout seuls. Ça nous libérerait, ça nous mettra un peu plus de place sur la terre. Allez, bon courage à toi Daniel et à plus, salut.
Oui, bonjour là-bas si j'y suis. Donc j'écoutais les émissions sur le ghetto de Neuilly. Moi ça me fait penser à un truc là, c'est dans ces écoles là à Neuilly, ces jeunes, ces gamins là, ils vont faire de bonnes études, ils vont faire l'ENA, Sciences Po, Polytechnique, et puis un jour ils se retrouveront dans un cabinet ministériel ou voilà, et ils seront là pour nous commander. Mais ils nous commanderont aussi bien dans le ministère de gauche comme de droite. Et peut-être qu'il y en a même qui monteront à la tribune en nous disant « Camarade, camarade !» Alors bon, à la limite, je préfère les bourges qui assument que certains de gauche qui vivent comme des bourges. Allez, salut.
C'est Noël de la Haute-Savoie. Bonjour à tous. Salut à Daniel et son équipe. Prix d'excellence pour ces derniers jours au sujet du ghetto de Neuilly. C'est à se taper le cul par terre, tellement c'est fou d'entendre des choses pareilles. Et dans ma tête, moi, je pense que la bonne Madame Dunant, pendant qu'elle allait à la chasse à cour, son feu gentil mari, directeur et proprio des sucreries Saint-Louis, traversait la rue pour se rendre au bois de Boulogne. Je pense. Salut Daniel.
Bonjour, c'est Adrien de Paris. Alors moi, je voulais dire, je vais prendre la défense un peu des bourgeois de Monsieur Sarkozy, parce que en fait je les ai trouvés assez sympathiques et moi ça m'a pas du tout donné la nausée. Par contre je vous repose une piste beaucoup plus intéressante sur des gens qui par contre m'exaspèrent plutôt au plus haut point, moi qui habite à Paris, c'est-à-dire les bobos qui détruisent la vie à Paris. En fait on se croirait un peu des fois dans Amélie Poulain, quoi. Et c'est un peu, enfin je veux dire, mais de toute façon, je sais bien que vous n'allez pas faire un reportage et risquer à les critiquer. Non, parce que sinon, dans Là-bas si j'y suis, vous risquez de perdre la moitié de vos auditeurs. Donc, mais bon, c'est dommage parce que moi j'aurais voulu en savoir plus sur ces gens formidables. et peut-être changer d'avis à leurs propos et les trouver peut-être comme nos amis de Neuilly, sympathiques, qui sait. Bon, voilà.
Oui, allô, salut Daniel. C'est juste pour dire qu'il y a quelques années, j'ai fait un petit stage à Fleury-Mérogis. Et à cette époque-là, il y avait donc dans la cour de promenade un escroc un peu du genre bonhomme, une bonhomie un peu à la Philippe Noiret. Là, il devait avoir 50, 60 ans. Et ce gars-là, son truc, c'était avec un collègue, ils arrivaient en costard avec des cartes tricolores dans les beaux quartiers de Neuilly ou du 16e, en se faisant passer pour des inspecteurs du fisc, et en allant voir les gens, en leur disant, ben, vous avez fraudé les impôts, vous allez avoir des problèmes, et en proposant de se laisser donc corrompre. Et donc c'était une affaire qui marchait très très bien, ils allaient jusqu'à accompagner les personnes à leur guichet de banque qui allaient donc leur donner dardard du liquide pour ce qu'ils se testent, parce qu'ils croyaient que c'était des vrais inspecteurs du fisc. Et donc voilà, ça marchait très bien dans ces quartiers-là où visiblement la fraude fiscale est assez répandue. Voilà, allez, ciao.
Salut Daniel, des nouvelles du repère de Ploubalet dans les Côtes d'Armor. Donc ça a eu lieu hier soir, on était une vingtaine de personnes. C'était très sympa, très 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 sympa. Voilà, donc on a très envie de se retrouver. Donc on a décidé de se revoir les derniers mardis de chaque mois. Voilà, donc on repassera une annonce en fin du mois de novembre pour appeler d'autres à nous rejoindre. Voilà, merci.
Voilà, repère de Ploubalet. Ben les repères de la base, j'y suis, ça marche, ça continue, ça se bouscule au portillon. On est un petit peu débordé. Ne nous en voulez pas trop si on met un peu de temps à vous rappeler pour mettre ça au point avec vous. Alors effectivement, ce que dit cette auditrice, il existe un site pirate où vous pouvez consulter les archives de la base j'y suis. Ça s'appelle labas.org ou -.org, archives, et vous pouvez effectivement réécouter les émissions sur ce site pirate. Alors, beaucoup de réactions suite au reportage de Guy Ventil à Neuilly, dans le ghetto de Neuilly. Des critiques, pas mal quand même, hein. Et puis des rigolades, des choses, enfin de toutes sortes. Mais enfin, quand même pas mal de critiques. On remettra ça plus tard. On ira voir un peu du côté de l'élite et des beaux quartiers à nouveau dans quelques temps. Et puis aujourd'hui, ben c'est mercredi, ben il fait beau, ben c'est les vacances, c'est les derniers beaux jours. Hein. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais à Paris, il fait un temps magnifique. Et là, on s'est dit que c'était un jour idéal pour jouir de l'existence. Jouir de l'existence, s'il faut pas croire, c'est tout un art, c'est toute une science, et même c'est une forme de résistance, et ça s'apprend. C'est mieux si vous avez une bonne nature, mais c'est quand même avant tout une affaire de culture, et une affaire de culture qui commence très tôt, dans l'enfance, en têtant. Oui, c'est en têtant que ça commence. C'est une affaire de bouche, c'est une affaire de langue, c'est une affaire de goût. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on retrouve un grand classique de la basse, j'y suis, entièrement restauré. Et restauré, ça va prendre tout son sens. Les mangers d'enfance, ça s'appelle, où il sera question de chacun d'entre vous, en particulier auparavant d'autres messages sur le répondeur de la basse j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je viens d'apprendre comment pendant des années Yves Rocher a traité 133 ouvrières burkinabées dans son entreprise La Gassilienne près de Ouagadougou. Conditions de travail dignes du colonialisme. Paye dérisoire et pour finir fermeture sans aucune indemnité quand ces femmes ont voulu faire valoir leurs droits. Personnellement, j'écris à Yves Rocher pour lui signifier qu'après plus de 30 ans d'achat, je boycotte désormais radicalement ses produits. Je voudrais que beaucoup en fassent autant jusqu'à ce que justice soit faite à ces ouvrières. Pour plus d'infos, lire l'UMA Hebdo du 22-23 octobre. Merci et à bientôt.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous, c'est Valérie. J'habite en banlieue parisienne et j'appelle aujourd'hui parce que je suis assez fière de moi. En fait, il y a quelques années, il y a 4 ans ou 5 ans, j'ai pris un appartement à mon nom pour héberger des clandestins, des gens que j'avais rencontrés et j'étais devenue un peu amie et qui étaient donc dans la merde des clandestins. Donc j'ai trouvé un appartement, ils sont là-bas depuis 4-5 ans, ils sont avec leurs enfants, et je suis très très fière parce que la plus grande, qui doit avoir 15 ans je crois, ou 16 maximum, a passé son bac de français en juin, donc, et a eu 15 à l'oral et 18 à l'écrit. Et ça franchement, quand elle m'a appris ça, la mère, j'étais vachement contente. Parce que voilà, je pense que c'est des gens qui ont tout quitté et puis peut-être qu'il y a un espoir là. Voilà. Donc je suis un peu émue parce que ouais, bon, c'est pas facile de parler comme ça devant pour tout le monde, mais donc je suis fière d'elle et puis je suis fière de moi, je suis fière d'avoir fait ça. C'est illégal, mais voilà, je l'ai fait et je pense que j'ai bien fait. À bientôt, Daniel.
Bonjour, je m'appelle Denis, je vous laisse un message après la lecture dans Le Monde d'un papier signé Maurice Druon et qui fait l'éloge de Pierre Messmer. Je veux bien reconnaître que Pierre Messmer a eu un destin assez exceptionnel et qu'il a certainement fait beaucoup de bonnes choses dans sa vie, mais connaissant quelques Camerounais, je sais aussi que durant son mandat en tant que gouverneur au Cameroun, avant la décolonisation, il a été aux affaires lors du massacre de tribus Mabiléké, et ce qui certainement entache en partie un peu le portrait élogieux qui est fait de Messmer par Druon. Et je voulais un petit peu rectifier le tir ou peut-être m'élever contre ces espèces d'agiographies qu'on voit fleurir parfois à la une de nos journaux. Je vous remercie.
Oui, bonjour. J'appelle de Bordeaux. Je voudrais vous signaler la mort de Rosa Parks à 92 ans. Rosa Parks, c'est cette femme qui a refusé le 1er décembre 1955 de se lever pour céder sa place à un blanc dans un bus en Alabama. Voilà, je voulais simplement qu'on pense à elle et qu'on dise gloire à Rosa. À bientôt.
Mon père, il avait un petit peu de bidon, je trouvais ça formidable aussi, moi. Si j'ai le temps, quand je serai grand, moi aussi, j'aurai un petit peu de ventre comme ça. Ouais, bah, j'aime bien aussi. J'aimais bien quand il mangeait, parce qu'il avait les oreilles qui remuaient en mangeant.
Votre père?
Oui. Ah, puis le mouvement des mâchoires, le bout d'oreille, ça descendait, ça remontait. Moi, j'essayais par tous les moyens de le faire autant, ça bougeait pas. Alors, je disais aussi, quand je serai grand, ça va être chouette, je pourrais remuer les oreilles aussi, en mangeant.
C'est les omelettes. C'est les omelettes, et ben, on met un peu d'épices, on met du ketchup, on met de la mayonnaise. Après, c'est pas bon, mais on s'est bien amusé.
Pour moi, la religion, c'est la carpe farcie.
Oui, ça c'est clair, parce que ma maman n'est plus là pour me faire de la carpe farcie, et maintenant c'est fini. Plus de carpe farcie, plus de religion.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie Simoneau, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2.
Ce qui est le début du tout, c'est en mangeant. Une fois que tu n'as pas pu être poli en mangeant, tu peux plus être poli dans la vie. C'est ce qui fait qu'en mangeant, ils peuvent te juger sur l'avenir. Tel a été mon cas.
Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour le maréchal. Une cuillère pour tonton Roger, qu'il revienne de la guerre. Une cuillère pour le chat. Une cuillère pour Kiki. Une cuillère pour De Gaulle. Mange ta soupe. Finis tes nouilles. T'auras pas de dessert. Tu veux pas manger? C'est pas bon ce que fait maman. Tu n'aimes pas maman? Mangez, mangez les enfants. Non, non, non. Maman n'a pas faim. Maman mangera plus tard. Maman ne mangera pas. Mange, mange, mange. Mange, mange, mange. C'est toujours ça que les boches n'auront pas. Mange. Tu veux faire mourir maman? Maman, maman mange. Si tu manges pas ta soupe, tu grandiras pas. Vous vous souvenez? Ça se voulait une menace, mais peut-être aussi un conseil. Sinon, pourquoi est-ce qu'on refusait de la bouffer, cette soupe? Sinon, à seule fin de rester petit. En tout cas, le souvenir, lui, ne grandit pas. C'est nous qui redevenons petits, tout petits, à l'évocation de ce manger d'enfance. Pour le bonheur ou pour le pire. Instant heureux, à jamais, enfui, en juillet, à Belle-Île, en pain, en chocolat, qui font. Instant d'abandon, de colo, de cantine, malheureuse pension. On aurait manqué sa vie. Instant rébellion, où on bouffe un tas de saloperies, bonbons tabous, coca, médicaments, où on se gave de dégueulasses expériences des limites, faire chier le monde. Aujourd'hui, manger d'enfance, souvenir doux ou aigre, miel ou fiel, mais attention, c'est miné, madeleine garantie. Caramba, coco boé, Guigui à 10, Guigui à 20, Mistral gagnant, boule de coco, purée, roux-doudou, pipasol, zan, tagada, fraise haribo, nounours en chocolat, berlingot de tous les pays, guimauve, lentilles, aspire frais, pommes d'amour, crème Mont Blanc, tapioca, le tube de Nestlé entier, choco BN, chocolat meunier, chocolat Elesca. C'était ski, car en sac, piquichante, crotte en chocolat, à la liqueur, jusqu'à mourir à Malabar. Avec Sophie Simoneau, manger d'enfance. Aspire frais, coco boer, Mistral gagnant.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coco-boères. Et les frères doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut. faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
Des noix de coco.
C'est des bonbons à noix de coco.
Ouais. Il y a même des cacahuètes. Des cacahuètes, tu les mets dans la bouche et ça fond, ça fond, ça fond. Et
il y a un bonbon en cœur. Il y a du poudre là-dedans, c'est très bon.
Et vous avez le droit de manger des bonbons?
Oui. Non, mais pas, oui, mais pas dans la classe parce que après on parle mal et puis surtout les chewing-gums parce qu'après on n'arrive pas à parler et puis après ça colle sur le cahier. Moi, en CE2, quand j'étais chez Brigitte Collins, j'avais tellement de chewing-gum sur ma cage, j'arrivais même pas à lequel à choisir. Quand la maîtresse retourne le dos, ou elle va faire une photocopie, je reprends, j'enlève le papier, après je le remange.
Et tu les gardes longtemps comme ça?
Oui. Pour l'instant, j'ai duré un an avec. Comme ça, c'est pas la peine d'en acheter un autre.
Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli, ou, ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles, mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
Alors, elle a combien d'heures, cette petite crevette?
Ben, je sais pas, quelle heure est-il, là?
Les 4 heures du matin.
Elle a une heure.
Elle tête là?
Ouais. Je l'ai à peine vue sortir et là, les têtes déjà, quoi. Ça respire vraiment, quoi.
C'est là. Votre première tétée à vous aussi?
Ah ouais, ouais. Je pensais pas que c'était aussi. Réflexe.
Elle mange bien.
Ouais. Je sens inspirée en vent, je sens pas le lait, je sais pas trop.
Elle a trouvé tout de suite.
Ouais.
Qu'est-ce que vous sentez?
Mais là, ça me permet de la trouver, là, en fait, parce que c'est allé tellement vite que j'ai pas compris, quoi. Et là, de lui donner à boire, ça me permet de la découvrir. Mais super.
Ça s'appelle comment?
On hésite encore. Salomé, je pense. Je sens plutôt qu'on se retrouve toutes les deux, quoi, maintenant.
longtemps que vous avez été toutes les deux, depuis 9 mois.
Ouais, tellement longtemps que j'étais complètement perdue quand elle est sortie. Là, je comprends qu'elle est là, mais je suis... je sais plus. Là, je sais plus trop sur quelle planète je suis.
Je vous laisse serrer très très fort contre vous.
Mais là, je comprends pas trop encore ce qui se passe. C'est à la fois comme tout à fait naturel et je comprends pas encore.
Vous la reconnaissez?
Pas encore. Je reconnais ses mains.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'elle me chatouillait tout le temps dans le ventre et je la touchais avec... je jouais avec ses mains.
À travers le ventre?
Oui. Voilà, elle vomit. Ah. Il y a un truc là.
Les dames?
Où
elle est encore?
Je sais pas.
Non.
Non, c'est...
Non, elle vomit pas. Non,
elle
non.
Vomit pas?
N'inquiétez pas. Elle a un petit peu recraché du lait.
C'est tout. Ah ouais.
Je vais voir. Je vais voir ce qu'elle a. Ouais, elle a un petit peu recraché du lait. Elle a bien bu. Elle avait pas mal de liquide gastrique dedans. Elle rejette un petit peu, quoi. Je crois que là, elle a peut-être plus vraiment envie de... De tété, ouais, je crois que là elle est bien, elle est rassasiée. Ça bien près de vous, ouais. Ah oui, vous inquiétez pas.
Je vais vous laisser.
En fait, nous sommes tous des anthropophages amoureux. La première fois qu'on mange, c'est la première fois qu'on aime. Je t'aime, je te mange. Fricassé de museau, on en mangerait. Dévoré des yeux, dents contre toi, on s'en lèche les doigts. Nous sommes tous des anthropophages amoureux. Sucer un sein, sucer un sexe, c'est avant tout une désespérée nostalgie. Nostalgie où nous n'étions qu'un cœur, où nous n'étions qu'un corps, maman et soi. Mais c'est comme pour la beauté, hélas, on ne mange pas sa mère en salade ni en porte-jartelle. Il est interdit de se farcir sa mère, on ne nique pas sa mère, il est interdit de la manger, et tout comme il faut rappeler, chère petite maman ogresse, que dévorer son petit est un vilain défaut. Aujourd'hui, entre Madeleine et Mistral gagnant, après Proust, on a commencé par le commencement, des commencements. On continue dans ces mangers d'enfance.
J'aime les Power Rangers sucettes.
C'est quoi ça?
Où il y a des tatouages pour accrocher. C'est ça, mais dans une autre forme, il y a le Power Ranger dedans.
Un Ranger, c'est qui?
Les Power Rangers, c'est des hommes qui volent, ils disputent avec les méchants.
Ben oui.
Edouard, c'est pas rigolo, il n'y a pas d'autocollant.
Non, c'est ça.
Papi, si tu veux, tu peux m'acheter le truc et puis je te rembourse tout mon argent. J'ai 25 francs à la maison, alors tu m'achètes un truc comme ça et puis après moi je te rembourse les 25 francs quand on est arrivé à la maison.
Oui, ça c'est encore.
Promis, j'irai.
Et vous, monsieur, le bonbon de votre jeunesse, c'était quoi?
C'était des... Bonbons, oui, silence. Des bonbons acidulés.
Des sucettes, si sans doute des sucettes. Sucettes et bonbons acidulés. Ah si, des berlingots. Parce que j'allais à ce que l'on appelle à l'époque à la fête à Neuneux, qui était là, vous savez que c'est la fête, il y avait une grande fête foraine à Neuilly, la nuit, et j'adorais les berlingots. Et j'avais la chance que mes parents étaient amis avec un couple qui avait une petite fille, qui était ma première fiancée, et avec lequel on se tenait par la main et on mangeait des berlingots. Et puis, j'ai grandi, la fille des amis de mes parents a grandi aussi, et je me suis trouvé à l'étranger, je lui avais écrit une belle lettre, alors à l'âge adulte, et que là, c'est la fin de la belle histoire, puisque le destin nous a séparés.
Vous n'êtes jamais marié?
Je suis jamais marié avec Gilberte. Et je mange toujours des berlingots quand je peux, mais j'en trouve plus. Je vous retrouve à la foire du trône, si vous voulez, dans 15 jours, quand ça va ouvrir. Au revoir.
Mon bonbon à moi, c'était quoi? Non, moi, c'est la pâte à choux. Mais je me souviens pas si j'avais un bonbon préféré. Si, j'aimais bien, vous savez, les boules de sucre à la noix de coco. Vous vous souvenez de ces boules blanches avec de la noix de coco rose dessus? Mais c'était délicieux. J'en mange toujours, faut pas le dire.
Puis il y avait aussi les petites pyramides, là, comme, tu sais, de menthe, bon, le truc de la forêt, là, comment ça s'appelait, là?
Je connais pas.
Si! Boîte ronde, avec des sapins dessus.
Des Vosges,
voilà, c'est ça.
D'accord, mentholé. Aspire frais, ça s'appelle. C'était délicieux, ils en font plus maintenant. Et il y avait toutes les couleurs, mais c'était toujours blanc à l'intérieur. Il y avait ça, puis des petits caramels à 1 centime. Je suis vieille, j'ai 38 ans. Des petits caramels à 1 centime. C'était très bon.
Il y avait une marque, là, je me rappelle
la
plus.
La pique chante.
Ouais, non, c'était pas ça. Je pensais, quand tu sais, Créma, c'est ceux-là qui sont mous, là. Oui. Tu sais, il y avait donc une pub dans les années 70, là. T'as un couple qui fait les courses, et puis t'arrives à peine à distinguer ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en manger. C'est des grands cubes, des grands cubes, tu sais, très, très, très mous, un peu qui ressemblent à...
Les
chamallows. Voilà, les chamallows. C'était ça, c'était vraiment ça. Ouais, les chamallows. Ah, chérie, t'as fait le cours, ça. Ah, chérie, les chamallows.
Qu'est-ce que tu veux?
Papa.
Barba papa. Voilà. Attention, Emma, elle va tomber par terre, ta barba papa, chérie. Elle a avalé une barba papa quasiment aussi grande qu'elle et depuis, elle ne fait que parler de barba papa. Et en fait, aujourd'hui, on devait aller voir Pinocchio au Guignol et elle a décidé qu'elle préférerait venir ici manger une barba papa. Donc, je crois que c'est vraiment une révélation.
Elle a quel âge?
Elle va avoir 2 ans dans 3 semaines.
En tout cas, Emma, on a plein les doigts.
Oui, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je crois qu'il faut vraiment profiter de ce moment de la vie. Ils vont pas abuser des bonbons, mais faut savoir leur laisser prendre du plaisir à faire ce genre de choses. Quand elle sera plus grande, elle va dire « Non, je peux plus, je vais grossir et tout. » Là, pour l'instant, elle le fait sans arrière-pensée et c'est toute livrée au plaisir de manger de la barbe à papa. Regardez, je crois qu'on pourrait partir, elle resterait là à manger sa barbe. On verra la troisième. Allez, je vous laisse. Au revoir.
Au revoir.
Chérie, on y va?
Je suis allé à la réunion des parents, à la maternelle, à la maternelle.
Tu dis après qu'on frottait beaucoup les yeux, qu'on était fatigués, c'était pour rigoler les filles, les petits lapins, les mamans, il y en avait des mamans rigolotes, il y avait tout. Alors tu le dis, d'accord?
D'accord.
Il y avait des mamans rigolotes. Il y avait des mamans rigolotes. Voilà.
Arrête de jouer avec la guitare.
Moi, c'était le lait, la peau du lait, l'odeur de la peau du lait là, qui se forme, le lait de la ferme avec sa peau jaune. Alors ça, c'était horrible. Et je me souviens que mon père, lui, après que le lait est chauffé, prenait avec une cuillère la peau du lait et se le mettait sur des tartines grillées. Et alors ça, c'était le summum de l'horreur.
Répulsion ou souvenir tendre ou souvenir de rébellion aussi. Voilà ce que l'évocation de ces mangers de nos enfances, de la bouffe de notre enfance, et bien sûr souvent des sucreries, évoque de manière mais infaillible, avec une précision que Proust a su si génialement décrire. Mais en disant manger d'enfance, on pourrait dire, pas seulement pour faire joli, mais on pourrait dire manger dans France. Vous savez, il y a ces histoires du pays qu'on bouffe. On bouffe tout le paysage, le palais de Dame Tartine, c'est le pays de Cocagne, ou alors on peut manger les maisons, on peut manger les arbres, on peut manger la terre, on peut manger les animaux, tout se mange comme ça. Eh ben, un pays, c'est un peu ça. On est de sa table comme on est de son pays, c'est-à-dire qu'on dit de la terre, on appartient à une terre, ben on appartient à ce que cette terre produit aussi, c'est-à-dire de la bouffe, des animaux, tout ce qu'on mange. Et curieusement, au temps de la mondialisation, etc., eh ben on reste très attaché à la bouffe de son tiroir, de son patelin, de son coin, de sa patrie. Et c'est très mystérieux. Alors il y a tous nos petits fantasmes. Vous voyez comme ça sort de partout, l'évocation d'un simple bonbon. Mais il y a les autres ailleurs. Comment ça se passe, par exemple, là-bas?
Ah oui, quand j'étais à l'école, je vais vous raconter quelque chose, une anecdote. Quand j'étais à l'école, j'ai une petite copine à l'école, elle s'appelait Marie. Et elle habitait à la campagne, il fallait qu'elle me ramène des banques. Si elle ne me ramenait pas des banques, je la tapais.
Non, mais ça, c'est...
Et à chaque fois qu'elle me rencontre, elle me dit, tu te rappelles quand tu me tapais pour ce que je t'avais pas ramené des banques? Je dis, ouais, je me rappelle de ça. Mais quand on est jeune, on est bête.
Et même les noix de coco aussi, monter les chercher et tout, pour les grands qui te font monter. Toi, t'es bien con, tu montes et puis eux, ils sont en dessous, en train de les recevoir. Et puis après, quand tu descends, t'as plus rien.
J'avais une fois au presbytère, on était toute une bande de filles. On venait de la chorale, de répétition de chorale. Et puis au presbytère, il y avait un manguier. On pensait que le curé n'était pas là, alors on est allé voler des mangues. Mais manque de peau, monsieur le curé faisait sa sieste. Quand il est descendu, il nous a vu. Moi, j'étais en bas, je n'avais pas grimpé les arbres. Ma copine, elle était dans l'arbre, dans le manguier. Quand on a vu le curé, on s'est barré, mais elle était dans l'arbre. Elle bougeait pas, pensant que le curé ne l'avait pas vu, ne voulait pas descendre. Il manque de peau, le curé l'attendait. Descends pas, parce qu'elle est pas du curé. On n'avait pas envie de manger, c'était là, c'était tentant. Ça appartient à tout le monde, c'était au presbytère. Pour nous, c'était ça. C'était le truc du bon Dieu, quand le bon Dieu partage. Alors, donc, le curé doit partager les mangues avec nous. Dans notre tête de gamine, on voyait ça comme ça. Mais le curé ne voyait pas les choses comme ça, parce que c'était interdit d'avoir pris sans lui avoir demandé. On lui aurait demandé qu'il nous en aurait donné, hein. Mais nous, c'est toujours plus excitant d'aller prendre sans avoir demandé.
Et vous les aviez mangés où pour finir ces mangues?
Eh ben, on les a mangés devant l'église.
C'est une grande table. Il y avait à peu près 20 personnes à manger. C'était une grande table en chêne, avec des bancs de chaque côté. On était 20 à manger. Il y avait mon père qui était en bout de table tout le temps, le chef de table. Mon père, quand il prenait le pain, toujours signe de croix. C'était des gros pains de campagne, 4 livres, tout le temps le signe de croix sur le gros pain de campagne. Et chacun, quand il voulait du pain, c'est mon père qui coupait, c'est le chef de famille. Il coupait une grande tartine et chacun y donnait à chacun qui voulait du pain. Même maintenant, hein, ça approche, ma mère est toujours vivante, mon père aussi. Mon père a 76 ans, ma mère a 72 ans, mais c'est toujours pareil, hein. Ma mère coupe pas le pain, hein, jamais. Hein. Des fois, j'allais pas à l'école parce qu'il me reste un morceau de pain que j'avais pas mangé. On sortait pas de table s'il restait un morceau de pain. Alors, quand je disais à mon père, on le donne aux poules. Non, non. Le pain, c'est la vie. C'est pas pour les poules. Les poules, ils mangent du grain. T'as le monde du pain, tu le finis. Tu sors pas de table sinon. Et par contre, là, il y a un truc de souvenir de gamin qui me rappelle toujours, c'est que avant de manger, toujours, fallait qu'on fasse, on disait toujours un truc de prière. Tout le monde se mettait debout avant de manger chez mes parents, même la semaine, le midi et le soir, fallait qu'on prie Dieu, remercie le pain que tu nous donnes, et puis après on commence à manger. On mangeait pas avant. On mangeait pas avant qu'on père commence à manger. C'est sympa. Quand je vois les jeunes maintenant dans les rues qui traînent partout dans tous les coins, moi j'y prends, j'étais bien élevé. J'étais à la bonne école.
Ouais, il y a quelque chose que je m'en rappelle. C'était dans mon petit village. Il y avait des gens qui étaient venus pour tourner un film. Et donc, ils avaient des plateaux déjà prêts. Et nous, quand on était petits, on courait derrière les voitures et ils nous passaient ces fameux plats quand ils avaient fini de manger, puisqu'on était quand même issus d'un pays pauvre. Donc, je savais pas ce que je mangeais. Et puis, t'as un des grands du village qui vient et qui me dit « Oh, Zouir, t'es en train de manger du cochon et tout. Lâcheur, j'étais vraiment... j'étais pas bien. Je dis, ça y est, je vais mourir ce soir. C'est fini, c'est la fin du monde. » Parce que pour nous, le cochon, c'était un truc grave. Et puis, il tourne et puis je le vois dans un buisson. Il est en train de se taper le plat et tout. Je suis arrivé, j'ai été dire à ma grand-mère, « Ouais, un tel, il a mangé du cochon et tout. » Il s'est fait assassiner par le village. Alors que lui, tu parles, il s'en foutait que ce soit du cochon ou pas du cochon. Lui, ce qu'il savait, c'est qu'il avait faim et puis qu'il fallait qu'il mange, quoi. Je veux dire, la faim n'a pas de prix, hein. Et il n'y a plus de religion quand t'as faim, hein. Quand t'as faim, on te donne à manger, tu manges et puis c'est tout. Mais c'est vrai que l'image qu'on nous a toujours donnée du cochon, c'est qu'il y avait une partie qui était dangereuse pour l'âme, et que les musulmans ne savaient pas quelle était cette partie-là. Donc, comme ils savaient pas quelle partie c'était, eh ben on mange pas de cochon. Et puis en fin de compte, tout ce qui était interdit, c'est ce que j'avais envie de goûter, quoi. Alors, on disait mange pas de cochon, on va chercher du jambon. Mais c'est vrai que bon, au Maroc, je l'ai mangé qu'une fois. Hein.
Et c'était bon?
Ah, bien sûr que c'est bon. Même les lardons, c'est bon. Pommes de terre sautées au lardon, bien sûr que c'est bon, mais bon. Par contre, il y a un truc que je mange pas, c'est la viande. Tu vois, la viande de cochon, je mange pas. C'est comme ça, ça a été ancré comme ça dans ma tête. Je me suis donné des choses qui sont interdites, et puis d'autres parties du cochon, comme ça, à la rigueur, si dans ce que j'ai choisi, il n'y a pas cette fameuse partie qui est dangereuse pour l'homme, eh ben, je joue un coup de poker. Donc j'ai choisi telle partie, et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Maintenant, j'ai bien choisi puisque je suis là encore.
Souvenir heureux, souvenir de plaisir, plaisir construit petit à petit avec les papilles, avec les papas, avec les mamans. Qui ne se souvient de ces purées dont les papas sculptaient, oui, en forme de château fort, ou bien qu'on creuse au milieu pour y mettre la sauce. C'est des souvenirs terribles, c'est des souvenirs terribles. Et puis il y a l'inverse, le rejet.
À la fin, le loup, il tombe dans la marmite et puis il mange.
Il a bien bouilli, le loup, et puis après, il s'en fout un repas. Hein.
Il le mange.
Il le mange. Enfin, c'est un peu le contraire. Normalement, c'est le loup qui mange les cochons, mais là, ça va faire les cochons qui vont manger le loup.
Et vous, vous avez déjà mangé du loup?
Non.
Et la cervelle de loup?
Ah!
C'est pas bon, la cervelle?
Non.
C'est dégueulasse.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, alors?
Des frites. Des hamburgers. Des pâtes.
Moi, ce que je préfère, c'est les épinards à la crème.
Ah!
Ils m'ont dit qu'il y avait du fer dedans.
Et tu les crois?
Bah oui.
Si, ce qui me dérangeait, c'est le tapioca et la betterave rouge. Alors ça passait pas. Ah non, ça passait pas. Non. Oh là là, tapioca, quelle horreur. Cette espèce de truc gluant, là.
Elle essayait de te les faire manger quand même?
Ah bah oui, tiens, sinon c'était la cave. Hein. Bah c'était dans le noir, avec moi l'assiette. Bon, ça durait pas longtemps, quoi. Il y avait repêchage. Au bout de 10 minutes, bon, ouais, je promets. Mais comme c'était froid, je mangeais pas. C'est trop tard. Puis ça faisait, à l'école, ça faisait un sujet de discussion avec les copains. Ouais, t'as la cave et tout. Ouais, t'es gros dur. Ouais, j'ai pas eu peur, même pas mal. J'ai même pas mangé.
Moi, c'est la soupe. Parce que moi, à table, on mangeait tous les soirs, il y avait de la soupe. En entrée, j'aimais pas du tout la soupe. J'aimais rien d'abord. Mais j'aimais surtout pas la soupe. Et tous les soirs, ma mère mettait la soupe dans l'assiette. Et tous les soirs, je disais, je la mangerai tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y avait tout le repas, tout le monde, mes soeurs avaient mangé la soupe. Tout le monde savait que j'allais pas la manger. Mais tous les soirs, on me mettait de la soupe dans l'assiette. Je la mettais à côté, je mangeais tout, l'entrée et tout ça. Et j'arrive au dessert. Et je disais, ah, j'ai mangé mon dessert, je peux plus manger ma soupe. Ce qui fait que je mangeais jamais ma soupe, mais tous les soirs, on me mettait de la soupe dans mon assiette. En sachant que j'allais jamais la bouffer, quoi. Alors, le truc par rapport à ça, le seul truc, c'est que j'aimais rien de ce que faisait ma mère, parce que c'était que des trucs genre Bircher Benner, je sais pas, tu connais Bircher Benner? C'était genre un végétarien. Et c'est, tu vois, comment faire de la nourriture qu'avec des produits sains, genre pile-pile et tout ça. Donc on a été élevés à Bircher Benner. Alors tous les jours, c'était que des trucs genre salade cuite et tout. Et je détestais tout ça, surtout que j'avais une copine où chez elle, il y avait que du chocolat et des trucs du coca et des yaourts aux fruits. Il y avait des trucs qu'on voyait à la télé dans les pubs. Moi, j'avais des trucs qui avaient même pas de nom, des trucs chelous, bizarres. Mais bon. Et maintenant, quand je vais manger chez ma mère, j'ai l'impression d'aller dans une secte, manger des trucs d'animaux. C'est vrai, ma mère, j'ai l'impression qu'elle je me fous toujours de sa gueule, d'ailleurs, parce que je me dis toujours qu'elle mange de l'herbe. Des trucs, des légumes, tu sais même pas ce que c'est, quoi. T'as jamais vu. Donc voilà. Bon, moi, j'aime bien les trucs que je peux reconnaître, quoi. Avec une marque.
Et quand tu mangeais pas, qu'est-ce qu'elle te disait, ta maman?
Rien, disait que j'étais difficile et qu'il y avait les petits Éthiopiens qui mouraient de faim. Alors ça me faisait rien du tout. Je lui disais toujours, bah, t'as qu'à lui envoyer. Mais bon, ça me faisait rien, je trouvais ça tellement absurde.
Et ton père, qu'est-ce qu'il te disait?
Mon père, il était pas là quand j'allais manger chez lui, c'était génial parce que comme on allait manger une fois par semaine chez lui, du coup il nous faisait tout ce qu'on aimait. Et c'était genre à thème, pendant un an on aimait le riz au lait, du coup on mangeait que du riz au lait. À table c'était genre plat de riz au lait. Après c'était genre, j'avais dit que j'aimais bien les escargots, alors on mangeait que des escargots. Tous les vendredis on mangeait que des escargots, en entrée, en dessert. Là c'était bien, tout ce que j'aimais, je l'avais pendant tout le repas, j'avais pas d'entrée. Je savais pas faire les repas mon père, alors du coup, mais il se spécialisait par exemple, quand il avait fait riz au lait. Ça a duré 2 ans plat de riz au lait. Ça c'était bien quoi. J'aime bien.
La culture le disait qu'il faut manger assise autour d'une même tasse. Le père, les enfants, tout le monde mange à la main en tenant le bout de la tasse. Lorsque j'étais petit, j'ai fait au moins 10 ans comme ça. Je n'avais pas le droit de regarder en dehors de la tasse et en tenant le bout de la tasse pour que ça bouge pas. Et mon premier souvenir sur les interdits, je me rappelle jusqu'à présent, c'est parce que la nuit en mangeant, j'ai pris du piment sans me rendre compte. Et je l'ai mis dans ma bouche, tellement c'était piquant, j'ai voulu le rejeter. Or, en mangeant, on n'a pas droit de faire sortir ce que tu as mis dans ta bouche. Ça a été ma première punition, je me souviens jusqu'à présent. C'est entre 3 et 4 ans, ça a été ma première punition. D'après, j'étais un poulet. D'après notre coutume, le contestataire a toujours été un brebis galé. Et ce qui est le début de tout, c'est en mangeant. Une fois que tu n'as pas pu être poli en mangeant, tu ne peux plus être poli dans la vie. C'est ce qui fait qu'en mangeant, ils peuvent te juger sur l'avenir. Tel a été mon cas. Parce que depuis que la famille a commencé à grandir, de dépasser les 30 personnes, je ne mangeais plus avec mes pères. Parce que je voulais savoir, lorsque j'étais petit, je voulais savoir pourquoi les interdits. Aucun de mes parents n'est parvenu de me donner une explication claire. Et c'était toujours soit par un claque ou un coup d'éventail ou un coup de pied. Je n'ai eu que ça comme explication. C'est ce qui m'embêtait. Et c'est ce qui m'a même poussé à continuer mes études parce que j'aimerais toujours venir en retard pour pouvoir manger les restes des autres. Ils me traitaient comme un chien enragé. Donc j'étais obligé de m'éloigner.
Aujourd'hui, vous vivez ici, c'est une sorte de squat en fait.
Oui, c'est une squat. C'est pas une sorte de squat, c'est une squat purement.
Il n'y a pas de table dans votre petite chambre?
Non, il n'y a pas de table. Parce que très rarement, je mange chez moi. Et même entre copains, souvent, on prépare en africain. Il y a tout juste 48 heures de ça, on a fait comme ça. Parce que ouais, avec mes copains, on avait tous la nostalgie de nos coutumes. Donc on a décidé de faire dans un plateau, sans cuillère ni fourchette, comme en Afrique.
Qu'est-ce que vous avez évoqué comme souvenir ?
Nos punitions. Le samedi, on a tous parlé de nos punitions et ça a été un bon sujet. Mais après avoir eu un certain âge, tu sais qu'ils sont sévères et pas méchants.
Vous les aimez ?
Oui, je les aime. Avec tout ça, je les aime. En mangeant ici, à table, seul, je pense à eux. Et j'ai la nostalgie de la coutume. D'être souvent puni, ça me manque vraiment.
Ah, un petit chant enregistré au Soudan, au sud du Soudan, il y a bien longtemps, pour finir cette émission, un classique de la basse égyptienne, qui était un reportage de Sophie Simoneau. Les repères de la basse égyptienne aujourd'hui, mercredi à 20h. On se réunira au café de la plage à Brest, 32 rue Massillon. Voilà. Et puis un autre à Saint-Nazaire, l'appart. C'est un repère aussi, l'appart, 182 rue de Pornichet, près du rond-point de Sautron. Et c'est à 19h. Voilà. Merci à tous. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Ronan Mahé. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission. Modeste Génial. Assistante Pascal Pascariello. Christophe Imbert s'occupe du répondeur dans le numéro et le 0156 40 37 37. Pascal a écrit quelque chose à voir ce soir sur Arte, sur l'alimentation. Argentine, le soja de la faim. Ou comment la multinationale américaine Monsanto exporte le soja transgénique en Argentine. Un documentaire de Marie-Monique Robin, excellente. Guillaume Martin et François Boulec, c'est à 21h35 sur Arte. Le répondeur, c'est le 0156 40 37 37. Vous le saviez, le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Vous le saviez aussi, réclame.